Oui. Blanche. Petit pou. Oui.
Bonjour à tous et bienvenue dans Naître et Grandir aujourd'hui, le podcast à destination des futurs parents et des jeunes parents. Aujourd'hui, nous allons parler de troubles alimentaires pédiatriques, plus communément appelés troubles de l'oralité. Un grand sujet, quand on sait à quel point ce qui se passe dans l'assiette de nos enfants nous intéresse tous. Je reçois aujourd'hui à nouveau Idil Zouba, qui est orthophoniste et spécialisée dans l'accompagnement des enfants souffrant de troubles alimentaires pédiatriques. Pour commencer, elle nous expliquera ce que c'est qu'un trouble alimentaire pédiatrique, comment faire la différence entre des difficultés alimentaires dites normales, entre guillemets, et un vrai trouble qui pourrait s'installer. Elle donnera aussi des conseils pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire quand son enfant a des difficultés, même passagères, pour manger. Et puis aussi, on verra qui et quand consulter. Voilà à peu près le programme qui nous attend aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors pour commencer, je vais te demander qu'est-ce qu'un trouble de l'oralité ou bien trouble alimentaire pédiatrique. On peut entendre un petit peu les deux appellations parce qu'il s'agit en fait de la même chose. En fait, on va dire que le trouble de l'oralité, c'est le terme plutôt utilisé en France dans le langage courant, alors que le trouble alimentaire pédiatrique, c'est plus un terme utilisé au niveau médical et puis à l'international. Alors, de quoi on parle exactement ?
Alors là, tu commences par une question, tu fais fort. Tu me demandes une définition.
Non, pas forcément une définition, mais d'en expliquer, on va dire, un peu les contours, on va dire, parce que je sais que ça regroupe pas mal de choses, et je suis pas sûre que ce soit finalement très parlant pour les gens.
En fait, tu vois, cette question, elle est très complexe, et aujourd'hui, je peux presque te dire qu'il y a même presque pas de consensus entre les professionnels.
Ouais, c'est ça,
et c'est un peu le problème. Je te refais un petit historique terminologique. Je te fais ce rappel terminologique. Pourquoi ? Pour te faire comprendre que les points de vue même ont changé concernant cette question de l'alimentation de l'enfant, etc. Après-guerre, en fait, on parlait de maternal deprivation, donc de déprivation maternelle, qui avait des conséquences sur la croissance de l'enfant. Voilà. Donc pour te dire qu'on était vraiment beaucoup dans les théories d'attachement, mère-enfant, etc. Dans les années 80, c'était plus, on parlait d'anorexie infantile. Donc on était plus d'un point de vue trouble alimentaire et plus l'aspect psy. C'est que depuis les années 90 qu'on a peut-être un point de vue un peu différent. On se rend compte que c'est pas lié à ce genre de choses-là. Et là, il y a eu une foison de termes différents. Alors surtout en anglais, dans la littérature anglo-saxonne, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Je serais absolument pas capable de te les énoncer. En français, en effet, voilà, c'est dysoralité sensorielle, trouble de l'oralité, maintenant trouble alimentaire pédiatrique. En fait, j'ai envie de te dire... Je pourrais même pas vraiment te dire la distinction entre tout ça. Je ne sais même pas trop pourquoi on a autant changé de terminologie. Je pense qu'on essaye encore aujourd'hui de trouver un espèce de consensus. Mais en fait, ce qui est presque plus embêtant, c'est que au niveau terminologique, on est un peu embêté, mais parce qu'en fait, on est presque embêté au niveau diagnostique même. Il n'y a même pas de consensus au niveau diagnostique. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire qu'on est face à un enfant où il y a une perturbation de la prise alimentaire par voie orale. Enfin, entre guillemets, une prise alimentaire conforme à l'âge de l'enfant. Mais encore une fois, c'est assez réducteur et assez théorique comme définition. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un enfant qui a des difficultés à s'alimenter de manière plus ou moins variée, une certaine quantité, et qu'il aurait du mal à maintenir ses apports nutritifs en vue d'une bonne croissance. Ou d'une croissance, plutôt. J'ai pas envie de dire le mot bonne, parce qu'on rentre tout de suite dans bien, mal. C'est toujours, il y a un espèce de jugement, alors que c'est pas l'idée, c'est plutôt la croissance. Voilà, c'est un peu ça. Mais ça veut tout dire et rien dire.
Oui, ça comprend beaucoup, beaucoup de choses, finalement.
C'est ça, exactement. Ça comprend un peu tout.
Ouais.
Voilà. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de rajouter dans tout ça, c'est qu'il faut se dire que quand on parle de troubles de l'oralité, troubles alimentaires pédiatriques, en fait, on parle pas d'une étiquette. On parle de plein de choses. On parle d'un continuum, d'une échelle, tu vois, c'est multicolore. C'est pas noir ou blanc, là. On a, entre ce noir et ce blanc, on a plein de choses. Et voilà. Plutôt, si j'avais à te dire, bah, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est un continuum de difficultés. Ça commence de la difficulté alimentaire jusqu'en effet à ce qu'on va appeler un trouble de l'oralité ou trouble alimentaire pédiatrique qui va amener l'enfant à ne plus pouvoir manger par la bouche et qui va être sondé, gastrostomisé. Voilà, c'est les deux extrêmes. Et puis entre, t'as tout le reste.
C'est un peu comme dans l'autisme, quoi. Il y a une multitude d'autismes différents, c'est un spectre, donc là, c'est un peu la même chose.
Idem.
Donc il y a des choses, on va dire, plus ou moins importantes, plus ou moins marquées, plus ou moins graves dans des symptômes et des systèmes différents. Je ne sais pas si c'est très clair, mais...
Ouais, et c'est peut-être que je vais essayer de recadrer un peu ce que nous, en tant que professionnels, on va rechercher et comment on va aider, en fait, les familles. Parce que souvent, les familles qui viennent nous voir, c'est qu'en fait, elles sont inquiètes. Donc, elles ne viennent jamais nous voir pour rien. Tu vois, tu ne vas pas voir un professionnel pour rien.
Oui, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas complètement, quoi. À minima.
Qui inquiète le parent dans son quotidien, dans le quotidien de l'enfant. Ça, peut-être, je le dis parce que... Ça, je ne le dis pas aux parents, je le dis à l'intention des professionnels, s'il y en a qui nous écoutent. Mais en fait, je crois que les phrases du style « ça passera, c'est pas grave, oh, à cet âge, c'est normal », en fait, ça ne va pas diminuer l'inquiétude des parents et ça ne va pas leur donner des outils pour changer, finalement, ce qui bloque dans leur quotidien.
Ouais.
Voilà, moi, c'est plus ça qui va m'intéresser. Après, te donner une définition, bah, peut-être qu'avec les éléments que je te donnerai au fur et à mesure de notre discussion...
Ça deviendra plus clair.
Voilà, ça deviendra plus clair. Mais celle-là, elle est vraiment très théorique. Et finalement, même aujourd'hui, moi, je crois que je suis même pas trop capable de donner un truc un peu...
Oui, c'est trop complexe, trop...
Ouais, c'est un peu... Déjà, chez les professionnels, et d'un pays à l'autre, il n'y a pas vraiment de consensus international. En France, on a une manière de voir les choses, par exemple, qui est un peu différente du monde anglo-saxon. Donc, ça veut dire que toutes les orthophonistes, peut-être que celles qui peut-être m'écouteront, vous ne serez peut-être pas complètement d'accord avec certaines choses que je dis, et c'est absolument possible. On ne fonctionne pas exactement toutes de la même manière non plus.
Oui, au sein des mêmes professions. Puis après, il y a d'autres professions. Il y a les ergothérapeutes qui travaillent sur ces choses-là.
Voilà. Oui.
Enfin, voilà, il y a des prises en charge, on va dire, pluridisciplinaires.
Tout à fait.
Et chacun voit avec le prisme de sa profession.
De sa profession. Mmh. Tout à fait.
Donc, forcément, il peut y avoir des petites divergences de discours, on va dire.
Oui, voilà. Tout à fait. Après, on reste quand même toutes convaincues de certaines choses.
Oui, bien sûr.
Enfin, je dis toutes parce qu'on est beaucoup de femmes, mais je devrais dire tous, pardon, j'utilise beaucoup le féminin, mais bon, c'est parce que, en vérité, on est quand même plus confrontées à un monde féminin.
Ouais. C'est clair. D'accord. Alors, finalement, non. Quand un parent a l'impression que son enfant rencontre des difficultés d'un point de vue alimentaire, comment savoir si ces difficultés, elles sont bah, justement juste finalement passagères ou si. Ça relève voilà, d'un trouble de l'oralité, etc.
Alors, je pense que ça, c'est vraiment une question intéressante. C'est, je crois, que la question que beaucoup de parents se posent. Alors, déjà, je vais commencer par le début. Je vais te dire, et j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, c'est qu'en fait, de la même manière, quand je parlais du langage et que je te disais que c'était une compétence développementale hein, qui était amenée à se développer, eh bien, je vais te dire la même chose, l'alimentation, c'est aussi une habileté qui est amenée à se développer. Voilà, donc on ne naît pas...
En sachant manger un steak, par exemple.
Exactement, ça va se construire étape après étape, et j'ai envie de te dire que là, ça commence de nouveau, vraiment dans la vie embryonnaire de l'enfant. Je crois que c'est aux alentours de la 10e semaine de la vie embryonnaire que l'enfant va commencer ses schémas d'églutition de liquide amniotique, qui sont au début très primaires, entre guillemets, et qui vont s'affiner au fur et à mesure pour arriver à la fin à des schémas de déglutition quasi similaires à la succion du nouveau-né. En fait, c'est en vue de la préparation vers l'extérieur, en fait. Donc, déjà, par exemple, tu vois, chez certains enfants, cette étape-là, elle peut être un peu compromise. Je pense notamment aux enfants avec des fentes vélopalatines, aux grands prématurés.
Oui, ils n'ont pas forcément toute la maturation in utero, finalement.
Exactement, il y a toute cette étape-là qui n'est pas allée jusqu'au bout. Et ensuite, bah, le bébé arrive, et puis il va y avoir en effet des étapes à ce niveau-là aussi, la succion, puis ensuite quand je vais arriver à la purée, ça va être une autre forme de déglutition plus verticalisée, puis ensuite, voilà, je vais vraiment suivre plusieurs étapes, ensuite le mâchonnement, l'écrasement, le mâchonnement, pour en arriver jusqu'à la mastication. Mais en fait, tu vois, ce développement jusqu'à l'âge adulte, parfois, il peut être semé d'embûches. Il y a des embûches médicales, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Plus organique même à ce moment-là. Médical, bah, encore une fois, je reprends hein, toute la sphère ORL, hein, les otites, les dents, ce genre de choses. Et puis, des embûches psycho-affectives, l'entrée chez la nounou, à la crèche, où il va y avoir parfois des petites régressions, ou des moments de frustration, de colère que je ne vais pas pouvoir exprimer. Comportemental aussi. Hein, j'ai 2 ans et je suis dans ma phase de « je veux tout contrôler » et d'individuation, en fait.
Donc là, je ne veux plus manger ce qu'on me donne.
Exactement, parce que je comprends aussi que c'est un peu la chose sur laquelle j'ai le contrôle. Je n'ai pas le contrôle sur grand-chose quand je suis petit, mais finalement, j'ai le contrôle sur mon sommeil et mon alimentation, donc je le comprends. finalement, si je vois qu'en plus, maman commence vraiment à beaucoup s'énerver et papa, ça l'énerve encore plus, oh ben, je vais peut-être continuer un peu. Hein, ça, voilà, je sens que là, j'ai un petit pouvoir. Donc voilà, il y a plein de petites embûches comme ça qui vont arriver et qui parfois vont être des toutes petites embûches et parfois des un peu plus grosses où on va pas trop pouvoir se relever, entre guillemets. Donc manger, c'est un apprentissage complexe. Dans l'épisode précédent, je te disais que le langage, c'était vraiment de la motricité ultra fine. Bah là, j'ai envie de te dire que c'est pas ultra fine, mais c'est fine. Et en tous les cas, ça fait partie des compétences motrices fines que l'être humain a, de faire les schémas de succion, puis ensuite...
Pour amener jusqu'à la mastication. Il y a beaucoup de muscles, il y a beaucoup de mouvements.
De choses à coordonner, coordonner la respiration. La langue qui fait un boulot monstrueux, en fait, on s'en rend pas compte. Moi, je dis souvent aux parents, prenez un morceau de pain dans votre bouche et regardez le nombre de fois que vous faites des coups de mâchoire, en fait. C'est 30, environ une trentaine de coups de mâchoire pour un mini morceau de pain. Quand je vous dis morceau de pain, c'est juste un croc, hein. C'est pas un quignon. Ouais. Donc, et puis, c'est un apprentissage aussi qui est pas uniquement, là, on parle de, tu vois, de la motricité, mais c'est aussi un apprentissage social, culturel. En France, on mange pas... comme en Inde, comme au Japon, et puis il y a une manière de manger, tu vois, nous on va manger avec une cuillère, une fourchette, mais il y a dans certaines familles, dans certaines cultures, on va manger avec les mains, les doigts, avec des baguettes, voilà. Donc c'est aussi un apprentissage vraiment de plein de choses à la fois.
Puis au niveau sensoriel aussi.
Tout à fait, en fait c'est même pas aussi, c'est surtout en fait, j'aurais dû même commencer par ça, c'est avant tout un apprentissage sensoriel, texture, saveur, sensation à l'intérieur de la bouche,
le chaud, froid,
plein de choses, on n'arrive pas à y penser là parce qu'il y en a tellement en fait.
Et puis nous, c'est pareil, on a déjà acquis tout ça, donc c'est la normalité, c'est sûr que la première fois que...
Bah, tu vois, le craquant là, je pense aussi au bruit que, par exemple, un curly peut faire sous ta dent, ou la texture d'une purée ou d'un chou-fleur, bah, c'est pas la même chose qu'un fromage.
Oui, il y a le côté pâteux, il y a le côté... Puis il y a au toucher aussi, parce que c'est vrai que les bébés, souvent, ils mangent... pas se mentir, ils prennent pas la fourchette et la cuillère directement, c'est plutôt avec les mains. Ouais. Donc il y a le sensoriel, le toucher aussi.
Mais parce que c'est une première entrée d'information sensorielle, c'est-à-dire, je donne l'exemple tout le temps aux parents. J'aime bien cet exemple que j'ai inventé et qui est, je pense, ça fait rire tout le temps les gens, mais je leur dis, imaginez, je vous envoie là dans une tribu au fin fond de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et puis vous parlez pas la langue, hein, vous comprenez pas, vous savez rien de ce qui se passe là, et puis vous avez faim, donc on vous ramène un plat. Ce plat-là, vous le connaissez pas, on vous l'amène déjà dans un contenant que vous connaissez pas bien, vous savez pas trop ce que c'est, puis je sais pas, vous avez l'impression que c'est visqueux, là, en regardant, vous avez l'impression que c'est à la fois visqueux, à la fois solide, il y a des choses un peu bizarres dedans. Est-ce que vous allez sauter dessus et mettre dans la bouche? Bah non, vous allez y passer par étapes, hein, vous allez le toucher peut-être, le sentir, peut-être le prendre entre vos doigts, comme ça vous allez voir déjà ce que ça fait entre vos doigts, ça vous donnera une information de ce que potentiellement ça fera sous votre dent, sous vos dents. Donc oui, une expérience sensorielle très importante qui commence déjà, comme on le disait, in utero par la déglutition du liquide amniotique qui a un goût aussi, qui va différer d'une maman à l'autre. Et puis du lait qui va aussi différer, donc le lait maternel qui va différer aussi de goût, mais aussi le lait maternisé.
Et après le lait maternisé, une fois qu'ils ont goûté, sauf s'ils changent de marque, le goût ne change plus trop, contrairement au lait de la maman qui va varier, quoi. Donc c'est sûr que... D'un point de vue sensoriel, il y a plus de diversité en allaitement qu'en lait maternisé.
Tout à fait, mais c'est aussi un apprentissage, la sensation de la tétine, du lait qui coule. Ouais.
Et puis même sur les laits, moi je vois, j'ai eu avec mon fils qui était intolérant aux protéines de lait de vache finalement. Quand j'ai arrêté l'allaitement, on a dit on va mettre un certain lait hydrolysable, protéines. Mmh. C'était plus épaissi. Clairement, il n'a pas voulu, enfin il a goûté, il n'a jamais voulu. Ensuite, on a essayé le lait de riz, il n'a pas voulu. Finalement, il a accepté, c'était de lait de chèvre. Parce que c'était celui-là qui, je pense, en texture, un peu... alors je sais pas si en goût, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr que les laits...
Tu pourras certainement jamais savoir, d'ailleurs.
Mais c'est sûr qu'il y a déjà bébé, en fait, 6 mois, il savait qu'il voulait pas de ce... ça lui plaisait pas, en fait.
C'est ça. C'est... Après, c'est souvent multifactoriel, hein. C'est pas juste une texture ou Enfin, c'est texture, goût, mélangé à plein d'autres choses qui font qu'ils vont plus ou moins accepter. Mais clairement, c'est une grande expérience sensorielle, hein, l'alimentation. Et du coup, tu vois, tu me demandais tout à l'heure, à partir de quel moment c'est plus normal? Alors, normal, j'en sais rien, parce que tu vois, ça s'appelle à la norme, encore une fois. Et moi, pour le coup, pour ces problématiques-là... Alors évidemment que j'ai des normes en tête, tu vois, évidemment, ce serait utopique de se dire que j'en ai pas, et ce serait complètement de la folie de te dire ça. Maintenant, c'est tellement différent d'une famille à l'autre, parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a des petits mangeurs, Il y a des gens comme ça, en fait. On n'est pas tous pareils en termes de sensorialité, d'appétit. On n'est pas tous pareils. Voilà. Mmh. Donc, je vais vraiment avoir besoin de rencontrer la famille.
Pour savoir, en fait, si c'est juste un petit mangeur, si c'est un manque de quelque chose, parfois peut-être juste un manque de proposition, ou si c'est la peur du parent aussi, peut-être.
Un parent qui a des angoisses de donner des morceaux et qui à chaque fois que l'enfant est à table va stresser, va finalement un peu communiquer ce stress-là. Ou un jeune parent qui a un premier enfant, qui sait pas trop quoi faire, comment faire, donc il va écouter un peu tout ce qu'on lui dit, mais sauf que parfois on peut lui dire un peu tout et son contraire, et du coup il va tout le temps suivre et changer sa manière de fonctionner, du coup il n'y a plus de repères pour l'enfant. Ça peut être plein de choses en fait. Moi, c'est ce que je vais chercher justement dans mon anamnèse lorsque je vais rencontrer le parent en bilan. Maintenant, en fait, moi, les éléments qui peuvent alerter les professionnels de santé ou le parent, ça va être au niveau comportemental un enfant qui va commencer à refuser les solides, le liquide, qui vont présenter quelques petits troubles du comportement, qui vont avoir du mal à rester à table. Alors attention, ça... Quand je dis ça, encore une fois, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas trop dire des trucs comme ça, parce que ça veut dire quoi, rester à table, tu vois?
Moi, Margot, à 6 ans, elle fait pas un repas en restant
voilà,
assise sur sa chaise.
Voilà, enfin, c'est compliqué, c'est...
Elle mange bien.
Voilà, donc c'est compliqué. Pour te donner des petits trucs comme ça, en fait, c'est plus, tu vois, un raidissement du corps. Un enfant, tu sens qu'il est pas à l'aise quand il est en train de manger. Il prend pas plaisir, en fait. Hein. Ou des ustensiles qui sont pas du tout adaptés à son âge. Genre, à 4 ans, je mange une purée et c'est dans mon biberon. Toutes les étapes clés.
Oui, voilà, toutes les étapes clés. Mais finalement, on le sait toutes les deux pour travailler ensemble sur ces sujets-là, que finalement, bien souvent, quand on voit des petits patients qui arrivent au moment de la diversification et qui ont des difficultés, en réalité, il y avait déjà bien souvent des difficultés de succion, que ce soit au sein ou au biberon. Donc finalement, dire aux parents que quand il y a une difficulté de succion, il ne faut pas hésiter à consulter quelqu'un, une consultante en lactation, ça peut être un ostéo qui est formé là-dessus, ça peut être une orthophoniste aussi, hein, évidemment. Les orthophonistes, on peut les voir avant la parole. Donc voilà, s'il y a une difficulté à la diversification, bien sûr, je parle d'une manière générale, mais en fait, cette diversification, c'est quoi? On va lui présenter des nouvelles textures, des nouveaux outils, des nouveaux goûts, et ça demande une adaptation. Donc cette adaptation peut demander un certain temps. À partir de combien de temps? Est-ce que c'est quelques jours, quelques semaines? Ou si vraiment la cuillère n'y arrive pas, si vraiment cette texture-là, elle n'y arrive pas, quand est-ce qu'en fait on va chercher une aide extérieure?
En fait, tu vois, là, encore une fois, j'ai presque pas envie de te donner de chiffres, parce que sinon je vais paniquer des parents alors qu'il n'y a pas lieu de paniquer. C'est-à-dire que la présentation de la purée, ça va aussi dépendre de comment est-ce que ça se passe, cette présentation de purée. Est-ce que, en gros, j'ai amené la purée et puis j'arrive avec ma cuillère et je la mets devant la bouche de l'enfant, et en fait, j'ai même pas laissé à l'enfant l'exploration d'eux? Comme je disais tout à l'heure avec l'exemple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, là, il y a des étapes, il y a des étapes, tout à fait. Enfin, l'enfant, aussi par protection, il va pas mettre n'importe quoi dans sa bouche. Voilà. Aussi, on va se le dire, un enfant qui n'a pas eu l'occasion d'explorer son intrabuccal par les objets, parce que le parent dit « Ah non, touche pas ça, c'est sale. Oh non, 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 tu mets pas ça. Non, pas ci, pas ci. Oh non, c'est... » Bon, à longueur de journée, donc il met plus rien dans la bouche, sauf qu'il est, en fait, le fait de mettre les objets dans la bouche, ça vient stimuler sensoriellement et faire reculer le réflexe nauséeux, qui au début, ce réflexe nauséeux est complètement physiologique chez le tout petit, donc c'est le fameux gagging, hein, puisque le réflexe nauséeux, même, c'est un gagging, qui est très devant, en fait, très antérieur au début, et qui va au fur et à mesure des stimulations sensorielles, va se postérioriser, donc va aller vers l'arrière. Mais sauf qu'en fait, si j'ai été un peu dans l'hyper-contrôle, que j'ai pas laissé mon enfant explorer, je l'ai mis dans le transat, dans le Yupala, dans un parc avec tout le temps les mêmes objets, je le laisse pas mettre les choses en bouche, explorer son repas. Alors certes, hein, ça fait du ménage, c'est pas propre, c'est pas joli, mais je lui ai pas laissé la possibilité finalement de passer toutes les étapes pour arriver à l'étape de j'accepte la purée et ça me fait plaisir de la manger. En fait. Donc, j'ai pas envie de te dire de chiffres, parce que sinon, j'ai peur que ça soit mal interprété par certains. J'ai juste envie de dire aux parents que quand, finalement, on a laissé cette autonomie-là et que on voit que ça perdure et que ça commence à nous inquiéter, on peut demander déjà conseil peut-être à son médecin. On peut déjà peut-être en parler à son pédiatre. Et si on n'est pas rassuré de la réponse du pédiatre, eh ben on peut se rediriger vers des professionnels de santé qui sont à même d'aider, de faire peut-être un suivi, un accompagnement parental. Parfois, il suffit de quelques conseils, finalement. Et ça, il faut s'entourer de potentiellement une orthophoniste qui connaît la question, une ostéopathe. Par exemple, toi, c'est vrai que c'est un sujet que tu connais bien, donc il passe pas directement par la case orthophonie. Il passe d'abord la case ostéopathie, et puis après, toi, tu me les renvoies si nécessaire. Et puis, ergothérapie, on parlait tout à l'heure. Je sais qu'il y a quelques psychomotes. Voilà, il faut juste savoir qu'il y a des professionnels qui sont formés pour. Il faut juste demander. Voilà. Ouais. Même les orthophonistes, on n'est pas toutes formées pour ça. Donc,
Oui, c'est ça, en orthophonie, c'est tellement large.
C'est tellement large.
De faire que tout le monde ne peut pas tout faire.
Oui, exactement.
Chacun c'est... est un peu spécialiste dans certains domaines.
Exactement. Donc oui, excuse-moi, pour finir peut-être mon explication, tout à l'heure, je parlais vraiment des signes d'alerte plus comportementales. Si je pouvais peut-être te donner aussi les autres éléments au niveau peut-être moteur, ce qui va nous alerter, c'est un enfant qui a une langue un peu tout le temps en avant, qui est sorti de la bouche, un bavage excessif, un enfant qui a du mal à gérer les textures différentes, notamment les morceaux alors qu'il commence à être grand, les difficultés, tu en parlais tout à l'heure, de succion, de mastication, ou parfois la nourriture qui ressort par le nez, ou l'enfant qui enlève à chaque fois les aliments de sa bouche, ou qui les stocke.
Qui fait l'écureuil.
L'hamster. L'écureuil. Voilà, et puis au niveau sensoriel, la sélectivité alimentaire importante, et puis en effet, les vomissements, réflexes nauséeux et compagnie, ou les repas qui durent à rallonge aussi. Mais en fait, dans tout ça, c'est surtout l'inquiétude du parent qui va être, pour moi en tous les cas, le plus important. Parce que la plainte des parents, franchement, elle est souvent quand même justifiée. Et finalement, le fait de prendre en compte cette plainte le plus rapidement possible nous permet d'éviter de rentrer dans des mauvais schémas. Parce qu'on se le redit, manger est un apprentissage d'une compétence. Mais du coup, si j'ai des expériences négatives à chaque fois que je mange, je vais l'engrammer comme ça au niveau cérébral aussi. Donc, je vais éviter cette situation, finalement. Donc ça, il faut vite ne pas rentrer dans des comportements comme ça.
Négatif.
Ouais, et souvent, en fait, c'est souvent ce qui pêche. En fait, souvent, la difficulté, elle est née d'X ou Y raison. Et puis, finalement, le parent, sans le vouloir, on va faire des choses qui vont ancrer encore plus la difficulté et qui vont mener sur le long terme, en effet.
C'est un peu le cercle vicieux, en fait.
Peut-être qu'on s'en sort pas et il faut vite que quelqu'un vous aide à casser ce cercle vicieux-là.
Ok.
On en entend de plus en plus parler de ces problèmes de troubles alimentaires pédiatriques ou troubles de l'oralité ces dernières années. J'imagine parce qu'il y a de plus en plus de professionnels aussi formés. Et donc, est-ce que c'est quelque chose de fréquent, sans forcément parler trop de chiffres, mais ça concerne beaucoup d'enfants ou est-ce que c'est plutôt une minorité d'après toi ?
C'est une bonne question celle-là, parce que c'est souvent la question que je pense que le parent ne pose pas forcément directement, mais souvent en fait ce qu'ils disent c'est ça. C'est il se passe ça, je m'inquiète, mais je sais pas trop en fait si c'est juste de s'inquiéter finalement. Je sais pas finalement si c'est la normalité ou non. Tu vois, ça revient un peu à la question d'avant. Est-ce que c'est fréquent ? Alors je vais te répondre comme ça, je vais te dire que les difficultés alimentaires, quand on prend vraiment l'extrême du continuum dont on parlait tout à l'heure, ce qu'en anglais on va appeler les picky eaters, en fait ceux-là ils sont plutôt fréquents. On estime environ, en tous les cas, c'est pas moi qui l'ai sorti de tout mon chapeau, comme on dit. On dit 25 à 35% des jeunes enfants qui auraient des difficultés alimentaires. Il y a un moment donné dans leur développement, ont des petits problèmes pour s'alimenter. Alors encore une fois, tu vois, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes, parce que problème alimentaire, ça veut dire quoi ? Très large.
Oui, ça veut dire quoi ? Des problèmes pendant 15 jours, pendant 6 mois
C'est ça, voilà, c'est très très large, ça veut tout dire et rien dire, mais pour te dire, je crois quand même que, même à entendre nos collègues pédiatres, c'est quand même un motif de consultation assez fréquent, voilà, à tout âge d'ailleurs. Je pense que voilà, il y a peut-être une méconnaissance sur l'alimentation de l'enfant, et je pense qu'il y a aussi un peu, tu sais, le « il faut que l'enfant mange 100 ml de 10 g de protéines », ce truc un peu cadré pour aider le parent, mais qui du coup fait que si l'enfant rentre pas dans ce cadre, c'est tout de suite un peu la panique à bord, surtout quand c'est le premier. Il faut se dire les choses, quand on connaît pas. Et du coup, dans ces 25-30% de problèmes d'alimentation, entre guillemets, en fait, on estime que c'est plutôt 1 à 3% des enfants qui ont un réel trouble alimentaire pédiatrique, trouble de l'oralité, avec un impact important sur le quotidien et un impact important sur la découverte alimentaire, le plaisir et la croissance, voilà. Un impact même parfois sur le poids, etc. Donc tu vois, c'est une toute petite proportion finalement. Après, ça veut pas dire
que les autres n'ont pas besoin d'aide.
Tout à fait. Ça ne veut pas dire que j'ai pas un enfant avec un trouble de l'oralité et que j'ai pas besoin de me faire aider. Mmh. Non, absolument pas. On est là aussi pour accompagner et prévenir,
oui, pour justement. Éviter, ouais. Comme tu disais, le cercle vicieux.
Le cercle vicieux, éviter qu'on arrive, enfin qu'on commence d'un picky eater, hein, du coup un petit mangeur, arriver tout doucement sur plutôt le long terme, hein, au fur et à mesure des années, à engrammer des expériences négatives au niveau sensoriel, au niveau comportemental, et du coup une petite capacité au niveau masticatoire, donc au niveau moteur, bah au final, en fait, j'en arrive en effet à un trouble de l'oralité sur le long terme. Donc, beaucoup de prévention va éviter ça. Voilà, j'ai envie de te dire fréquent. Pas tant que ça, finalement, ouais. Mais et en même temps, pour les tout petits mangeurs, oui, plutôt.
Ouais.
Double réponse. Pas de réponse tranchée ici.
C'est votre choix.
Voilà, bah, en fait, on travaille avec de l'humain, donc c'est vrai que c'est oui, toujours c'est... compliqué d'avoir des réponses un peu tranchées. Mais je te réponds oui et non.
Est-ce qu'il y a des facteurs de risque pour voilà, ce genre de choses? Alors, tu disais voilà, que les fentes vélopalatines, tu avais évoqué ça. J'imagine qu'il y a d'autres choses potentielles. Voilà, les bébés qui naissent bah, avec grand préma, s'ils sont intubés. Si, voilà,
tout à fait.
Des choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses Comme pour le langage, on a parlé des otites, mais par exemple, voilà, des facteurs de risque qui peuvent entraîner des difficultés alimentaires, finalement.
Oui, il y en a. Alors oui, la prématurité, on a expliqué pourquoi tout à l'heure. C'est sûr que plus grande la prématurité est et plus l'enfant est à risque. Donc pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, mais aussi, comme tu le disais juste, très justement là, pour des questions un peu d'agression, en fait, de l'oralité du tout petit, bah, les intubations, la sonde nasogastrique, le fait que l'enfant n'ait pas assez de force pour venir téter le sein de sa mère, donc du coup, bah, tout ce qu'on va pouvoir lui donner, parfois le biberon, même c'est compliqué chez les grands primats, donc la seringue, la pipette, la je ne sais quoi. Donc tout ça, oui, va pouvoir en effet impacter. Les malformations orofaciales, donc, dont les fentes vélopalatines font partie. Les malformations digestives, je pense à un truc qu'on peut voir en orthophonie, c'est par exemple des enfants avec des atrésies œsophagiennes. Les pathologies digestives qu'on connaît bien chez le petit, le reflux gastro-œsophagien, les intolérances, voire les allergies alimentaires qui vont pas du tout aider, forcément, qui vont construire finalement ce schéma d'expérience négative autour de l'alimentation. Les cardiopathies malformatives, respiratoires, métaboliques, pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui ont souvent pas mal de chirurgie tout petit. Donc encore une fois, intubation, sonde et compagnie.
Oui, un peu en fait, toute douleur ou toute expérience négative répétée peut avoir un impact.
C'est ça, et puis beaucoup de passages à l'hôpital pendant de longues périodes. Et puis les syndromes génétiques, on pense à la trisomie 21, syndrome de Turner, etc. On pourrait en citer plein. Les syndromes neurologiques aussi. Polyhandicap, INC, paralysie cérébrale, voilà, tout ça, les TSA, qui présentent plutôt une hypersensibilité, qui vont du coup les empêcher de découvrir sereinement le monde alimentaire. Finalement, ils vont être souvent très, très sélectifs. Et du coup, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment, je te dirais, les facteurs de risque, c'est vraiment cela. Après, pour les petits mangeurs, il y a aussi on sait qu'il y a aussi un petit facteur héréditaire. Souvent, quand tu poses la question aux parents, tu leur demandes « Alors, est-ce que, de ce que vos parents vous ont dit, est-ce que vous-même, l'un de vous deux, vous étiez aussi
un peu comme ça,
est-ce que vous vous reconnaissez ?» Parfois, je leur demande « Est-ce que vous reconnaissez dans... ?»« Ah oui, complètement !» Donc, il y en a souvent un des deux qui, à un moment donné, était comme ça ou qui, parfois, l'est encore un peu frileux à goûter des nouvelles choses. Ouais. Donc, encore une fois, il y a aussi des différences interindividuelles.
Voilà. Oui, bien sûr. C'est comme pour tout.
Mais clairement, en gros, si tu vois, s'il y avait à résumer, il y a des facteurs de risque pour certains enfants, des difficultés vraiment de type sensoriel, d'autres vraiment moteurs. D'autres, ce qu'on voit beaucoup au cabinet, c'est quand même assez comportemental, mais je crois qu'on en reparlera un peu après. Mais pour toutes les pathologies ou les syndromes que je t'ai évoqués avant, c'est souvent sensoriel et moteur. Voilà. Pas uniquement comportemental. Chez les enfants normaux développants, il y a quand même beaucoup de comportemental. On peut vite en sortir, du coup, tu vois. Avant que ça impacte de trop le sensoriel et le moteur. Même si tout ça est impacté, c'est un trio. Hein, donc,
Oui, bien sûr, mais c'est sûr qu'un enfant, par exemple, un ancien préma qui a eu des expériences sensorielles compliquées depuis le départ, que ça remonte finalement loin, bah, c'est plus ancré, donc ça va être aussi plus difficile d'en sortir, quoi.
Tout à fait, c'est comme tout. Après, il y a un espèce de désapprentissage.
Faut déconstruire, en fait.
Faut déconstruire, voilà, pour reconstruire. Et c'est pas toujours si évident. Vaut mieux finalement construire dès le début correctement. quand c'est possible.
Et bah, quand on construit une maison, c'est mieux de construire directement la bonne plutôt que de voir à la mi-chemin la démolir et recommencer.
Quoi. Exactement, ça c'est un peu.
Ça coûte plus de temps et ça coûte plus cher.
Ça coûte plus cher aussi en énergie, voilà, c'est un coût, c'est sûr.
Ça marche.
Alors finalement, comment les parents peuvent et doivent réagir si leur enfant a des difficultés? Que ce soit, enfin, peu importe l'âge en fait, s'il devient plus sélectif ou qu'il ne veut pas de morceaux ou voilà, qu'il refuse certains aliments, enfin un certain nombre d'aliments par exemple, comment les parents doivent réagir? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider? Et surtout, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire pour envenimer la situation?
Ouais, bah là je vais répondre à ce que je te disais juste avant, justement je vais un peu étayer le lait comportemental. Encore une fois, cette réponse, elle est toujours à adapter selon le profil de l'enfant, le profil de la famille, etc. Mais si je devais quand même te dire quelque chose, parce que quand je rencontre les familles en consultation, et peu importe finalement, entre guillemets, la gravité de la difficulté ou du trouble, on est face à des parents qui sont inquiets. Même parfois, j'ai envie de te dire, désemparés, démunis. C'est souvent, on ne sait plus quoi faire, c'est la bataille pour manger. J'en ai presque la boule au ventre quand je sais que c'est l'heure du repas. Il y a une espèce d'anxiété face à l'alimentation de leur enfant. Et quand en fait on en arrive à là et qu'on trouve pas l'aide extérieure parce qu'on en a parlé à notre médecin et qu'il nous dit « Mais vous inquiétez pas, ça va aller, c'est normal. Un enfant ne se laisse pas mourir de faim, ça met un peu de temps. » Voilà, tous ces genres de choses qui partent toujours d'une bonne intention mais qui finalement, toi quand t'es dans la situation de l'inquiet, ça te rassure pas. Ça te donne pas les outils pour ne plus être inquiet, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu te débrouilles seule. enfin, quand je te dis tu te débrouilles seule, oui. À deux, je parle de l'équipe oui. Papa-maman, vous débrouillez seule et vous allez commencer tout doucement à trouver des solutions. Et c'est ce que moi, je vais appeler des stratégies qui sont productives sur le moment T, mais qui sont en fait sur le long terme contre-productives. Et c'est quoi ces stratégies? Ça va du... forçage alimentaire, celui qu'on connaît peut-être, celui qui va parler le plus aux gens. Et c'est celui où les gens me disent « Ah mais non, fais pas ça !» D'accord, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Je fais le pitre pour que la cuillère atterrisse dans la bouche de mon enfant, je fais le clown, je lui donne un livre, la tablette, je le distrais, je négocie, je lui dis « Bravo, super, t'as mangé toute ton assiette !» Quand il a mangé toute son assiette, je fais un système de récompense. Je pourrais t'en citer plein parce que plus j'ai d'expérience moi en clinique, tu vois, plus je rencontre de familles, plus j'ai d'exemples. J'ai une espèce de feuille comme ça que je présente aux deux parents et en fait on s'amuse à aller cocher ce qu'ils ont déjà fait. Et puis les parents sont toujours, on en rigole, c'est vraiment souvent un moment assez détente, bizarrement, parce qu'on parle de choses qui un peu qui fâchent. Hein. On fait ça sous forme vraiment de... on rit de nous-mêmes, voilà, parce que cette feuille-là, je leur dis... Encore une fois, elle vient pas de nulle part, je ne l'ai pas inventée. Finalement, vous n'êtes pas les seuls à avoir fait ça. C'est aussi un peu l'histoire de déculpabiliser. Hein. Mais c'est vrai qu'elle commence à être longue là, au fur et à mesure. Et c'est des choses, parfois, on ne comprend pas. Enfin, encore une fois, c'est contre-intuitif de dire « Mais pourquoi dire bravo à mon enfant quand il a fini son assiette? Pourquoi est-ce que ce n'est pas bien? Enfin, pourquoi est-ce que ça va servir à rien? Ou ça va me desservir ?» Bah, parce que votre enfant, il ne mange pas pour vous faire plaisir. En fait, à partir du moment où on est rentré dans ce schéma-là, on est rentré déjà dans le mauvais schéma. Donc les parents qui vont dire bah, « j'ai enfin réussi à lui faire manger », en fait, on est déjà intérieurement dans une construction de « c'est à moi de lui faire manger quelque chose ». Or, non, c'est à l'enfant de découvrir l'alimentaire, c'est à l'enfant de s'alimenter lui-même, de gagner en autonomie, mais aussi d'apprendre, bah, on l'a déjà dit, hein, toute la complexité que c'est d'apprendre à manger, sociale, culturelle, moteur, sensorielle, etc. Mais aussi de comprendre les signaux de satiété, de faim, c'est un apprentissage. On n'est pas avec ça, en fait. Nous, in utero, on était nourris H24. Bah, j'arrive, je sors, et là, oh, ça me tiraille le ventre. Ah, j'ai faim, en fait. Mais ça, au début, je le sais pas, je vais apprendre. Hein. La satiété, c'est pareil. Quand est-ce que je m'arrête? Et si derrière, j'ai toujours maman ou papa qui me dit « Allez, encore une cuillère, allez, une cuillère pour maman, s'il te plaît !» Bah finalement, je suis déjà en train de ne pas permettre à mon enfant d'apprendre.
Oui, il va peut-être manger une cuillère de plus pour...
pour te faire plaisir, mais en fait, là, on est en train d'envoyer indirectement et inconsciemment le mauvais message. Donc moi, en fait, c'est ça que j'aide à déconstruire. La première étape, quand je rencontre les parents, c'est de déconstruire ça. Parce qu'en fait, quand il y a une difficulté alimentaire... dans 99,9% des cas, j'ai envie de te dire 100, mais juste pour pas passer pour une menteuse, si jamais un jour j'ai rencontré une famille et que c'était pas comme ça. En fait, tous les parents qui ont un moment un enfant, qui ont une difficulté et qui sont inquiets, et qui sont arrivés jusqu'à mon bureau et qui ont un peu attendu pour arriver jusque-là, ils ont des stratégies comme ça. Et plus on attend, et plus elles sont nombreuses. Et plus la feuille que je leur montre, là, elle est remplie, elle est stabilisée de partout. Et en fait, eh bien déjà, rien qu'en enlevant toutes ces stratégies, il y a des choses qui s'améliorent à la maison. Il y a même parfois des enfants qui ont des réactions assez rigolotes. Là, j'ai rencontré une famille la semaine dernière. J'ai fait, voilà, je leur ai raconté, enfin, un peu ce que je viens de vous raconter, et puis, bien sûr, plus en détail. Quelques jours après, je les revois, et en fait, ils rigolaient de la réaction de leur enfant, parce que leur enfant était un peu interloqué par le fait qu'il n'y ait plus de sollicitations répétées de maman et papa. Donc, 2 ans et demi, l'enfant qui dit à sa maman, « Mais maman, du fromage, du pain, des pâtes, des brocolis. » Enfin, en fait, il énonçait plein de mots, histoire de dire « Et du coup, tu me proposes pas plein de choses à la fois par la suite ?» Et la maman rit intérieurement. Elle me dit « C'est incroyable et ça m'a fait rire parce que je me rendais pas compte que je faisais ça. » Voilà. Donc, les enfants aussi, clairement, ça les impacte. Et juste de lâcher tout ça, ça va permettre juste de permettre à l'enfant d'avoir un espace pour découvrir et son plaisir. Parce que ça reste un plaisir, normalement, de manger. Sauf que là, ça peut pas.
Oui, si on est toujours sous la contrainte, sous la pression, forcément, y a pas ce plaisir, quoi.
Mais c'est pas toujours évident, c'est facile à dire. C'est très facile à dire, mais quand on est parent, on sait que c'est pas toujours si simple. Et l'inquiétude d'avoir un enfant en mauvaise santé...
Dans nos cultures, enfin, je pense, même partout sur la planète, on préfère toujours un enfant qui mange bien qu'un enfant qui mange peu. Je pense que ça fait partie des choses... Là, on préfère les bébés qui ont des bonnes petites joues, des bonnes petits plis dans les cuisses, etc.
Et en même temps, toi, quand on dit qu'ils mangent bien, le derrière le bien, oui, qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais tu vois, des schémas.
Des schémas, c'est ça. Mais bien sûr, on est bourré de schémas. Ça, c'est des schémas, bien sûr, culturels, bien sûr. Puis après, en grandissant, par contre, il faut être fin.
Ouais, c'est ça.
Sinon, ça veut dire autre chose d'être gros en étant adulte. Oui, bien sûr, c'est des schémas. Tu vois, le manger bien ou le manger en bonne quantité... Souvent, c'est aussi des choses que je vais rediscuter avec les parents parce que ça veut rien dire.
Ouais.
Tu vois, encore une fois, manger bien, ça veut dire quoi ? Bien pour qui ? Pour vous ? Pour vous désangoisser, en fait. Oui, c'est la quantité que vous aviez décidé qui était intéressante ou importante ou que votre enfant avait besoin pour, était censé ou avait besoin pour. Mais lui, de son côté, peut-être pas ce dont il a besoin maintenant. On n'est pas homogène non plus dans notre prise alimentaire nous-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où vous n'êtes pas très bien et vous mangez plus ? Ou au contraire, vous mangez moins, vous avez la gorge nouée ? Si, on n'est pas homogène. Et pourtant, on ne laisse pas beaucoup cet espace de liberté à nos enfants. Voilà.
Chez un adulte, et puis si un enfant est malade, on accepte pendant 2-3 jours.
Voilà.
Voilà. Mais derrière, effectivement, on est content quand il se remet à manger.
Ouais, c'est ça, il y a vraiment eu des attentes envers les enfants qui sont parfois pas des attentes qu'on aurait envers d'autres adultes, tu vois. Et pour... Pas que ça, pour beaucoup de choses, tu vois, c'est pas juste sur la quantité, ça va être sur comment il va manger, bah pas avec les mains, avec la cuillère, enfin vraiment tout plein d'autres aspects. Ça laisse très peu d'espace de liberté, et quand t'as peu d'espace de liberté, ça donne pas beaucoup envie de découvrir, t'es beaucoup sous la pression et la contrainte. Et surtout, il y a un truc un peu comme ça, hein, chez l'être humain, mais chez l'enfant c'est encore plus vrai, c'est que plus l'enfant est sous pression et plus il lutte. Voilà, lutte, résistance, enfin tu t'en sors pas en fait. Et là, tu rentres dans l'engrenage. Et plus tu vas réussir un petit peu à laisser les rênes là et lui dire « Ok, en fait, bien sûr qu'il y a du cadre, hein, je suis pas en train de dire de pas mettre de cadre, évidemment qu'il y a un cadre, mais est-ce qu'on est obligé de tout cadrer, tu vois ? Et même, est-ce que c'est ça qu'on a envie d'apprendre à notre enfant, finalement ? Est-ce que c'est pas ça, à un moment donné, quand on a toujours dit à son enfant « Mais non, ça c'est la quantité dont tu as besoin », est-ce que c'est pas ça, un jour, qui fait qu'on a des espèces de crises comme ça, de boulimique, là, on sait plus se contrôler, parce que peut-être qu'on n'a pas appris à s'écouter non plus. Tu vois, à écouter cette sensation de satiété, de faim et compagnie.
Si il a pas fini son assiette, finalement, c'est pas grave. C'est qu'à ce moment-là...
Tu sais pas ce qui s'est passé dans sa journée, comment son état de fatigue, un enfant qui est trop fatigué, il pourra pas manger. Je sais pas, moi, peut-être que... Je sais pas, il y a des jours aussi que t'as envie... T'es pas très bien, ou il fait froid, t'as envie de manger un burger, quoi. T'as pas envie de manger une salade ou des brocolis. Et puis il y a aussi un truc, tu sais, un peu d'hyper-contrôle, je le vois quand même pas mal chez certains parents qui savent que le sel c'est pas trop bon, le sucre c'est pas trop bon, et du coup qui vont être presque dans l'excès, c'est-à-dire qu'on va pas du tout laisser d'espace de découverte de ces trucs-là. Donc du coup les aliments sont presque sans saveur, et ben oui, mais L'enfant, il sent qu'à la maison, ça sent le curry coco. Et dans son assiette, c'est une pauvre purée sans sel, sans épices, sans rien du tout. Tu vois, c'est...
Ouais, oui, non, mais
c'est est-ce que toi, t'aurais envie, sincèrement? Moi, je dis aux parents aussi, présenter des choses qui vous donnent envie, quoi. Pour finir la fin des assiettes de vos enfants.
Ouais, si non, vous avez mais... pas envie de la finir, c'est que c'est pas...
Après, évidemment, tu vois, le sel pour les petits, évidemment, j'ai pas envie de me mettre à dos mes collègues pédiatres. Évidemment, mais moi, tu vois, je limite le sel pour mes enfants. Mais maintenant, ça veut dire aussi que... faut un petit peu se dire que l'enfant, il baigne dans l'environnement familial, il sent des odeurs. Et là, dans son assiette, ça ressemble pas à ce qu'il a senti. C'est une dissociation aussi, tu vois, au niveau sensoriel, ça. Ou les parents qui vont donner des purées jusqu'à un an et demi, deux ans, parce que bah il a pas de dents. Tu connais ce sujet bien mieux que moi, mais... oui, mais en fait, on n'a pas besoin de nos dents pour manger, alors tu vas pas lui donner un rumsteak.
Ouais.
Quoique tu pourrais sous une forme différente, tu vois, un peu effilochée ou quoi. Mais les gencives, c'est elles qui travaillent la langue, en fait.
Effectivement, le bon gros steak ou l'entrecôte sans dents, c'est compliqué, mais en effiloché ou en haché finement, ça passe très bien.
Il faut la motricité globale avant, qui est, comme tu le disais justement, donc le corps, la tenue en station assise. Voilà ce que je peux te dire.
Ça marche.
Mais du coup, on ne force pas son enfant, on ne négocie pas.
On ne cache pas les aliments.
On ne cache surtout pas, parce que la langue, c'est un des organes qui est fait justement pour détecter un mini...
assez précise.
Voilà, que votre œil ne détecterait pas, donc on ne fait surtout pas ça. En fait, l'enfant se sent un peu trahi, hein. Ça trahit la confiance. Pas bravo, on ne complimente pas, on ne donne pas la
spectacle.
On ne fait pas le spectacle, pitre, l'avion, le je ne sais quoi.
On ne donne pas à manger quand il dort, pour le biberon.
On ne se culpabilise pas si tout ce que je viens d'énoncer, vous l'avez déjà fait.
Faut juste essayer d'arrêter.
Voilà, et si vous voyez que c'est compliqué, faites-vous aider, tout simplement. Parfois, c'est quand on a la... Quand c'est notre... Non, tout le temps, quand c'est notre enfant, c'est toujours plus dur.
Oui,
moi aussi, je parle très bien quand c'est pas mes enfants. Mais quand il s'agit de miens, c'est toujours plus dur.
Oui, bah c'est comme pour tout.
Voilà, mais la connaissance et le fait d'être outillé pour savoir comment s'en sortir, pour le coup, ça aide vraiment.
Ok. Donc, bon, de toute façon, la dernière question, c'était quand et qui consulter, mais finalement, on l'a déjà un peu dit, finalement,
oui.
On consulte quand on s'inquiète.
Bon, en fait, je pense juste trouver des professionnels qui s'y connaissent. Et c'est peut-être ça qui n'est pas évident, mais sachez qu'il en existe. Et attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux aussi, hein, y a un peu tout et n'importe quoi. Donc.
Oui, en fait, sur les réseaux, ça peut être aussi bien une maman qui donne son expérience qu'un professionnel de santé. Donc évidemment, on écoute plutôt les professionnels de santé comme Idil, aujourd'hui qui est orthophoniste, plutôt que le compte à la mode de je ne sais pas qui, et qui dit pas forcément des choses adaptées.
Voilà, écoute, ce sera le mot de la fin peut-être.
Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Idil d'avoir à nouveau répondu à toutes mes questions. Nous espérons que vous repartez en y voyant un peu plus clair sur le sujet des troubles alimentaires pédiatriques et surtout outillés pour réagir au mieux en cas de difficulté chez votre enfant. Dans tous les cas, quelques grands principes qui aideront. Le numéro 1, et c'est celui qu'il faut retenir, on ne force jamais et de quelque manière que ce soit un enfant à manger. Alors ça veut dire quoi ne pas forcer? Ça veut dire on ne camoufle pas les aliments, on n'essaye pas de l'entourlouper en lui racontant des histoires, en lui chantant des chansons, en lui faisant le spectacle, en le mettant devant la télé. À long terme, toutes ces choses sont contre-productives. Si vous avez déjà mis ce genre de choses en place, ne culpabilisez pas, vous n'étiez pas au courant, mais il est temps d'arrêter. Eh bien, il est aussi temps, pour moi, de vous dire au revoir, en attendant de vous retrouver pour un épisode qui sera dédié à la tétine et au pouce. Prenez soin de vous et de vos bouchous.
Merci d'avoir écouté ma maman et son invité. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à partager.